l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Recevant cette semaine son Nobel de littérature à Stockholm, Svetlana Alexievitch a évoqué d'emblée sa famille nourrie de livres dans son pays, la Biélorussie. Elle n'a rien dit, en revanche, de sa filiation littéraire immédiate. Les écrivains biélorusses Alès Adamovitch et Vassil Bykov l'ont pourtant précédée dans un genre où elle a ensuite excellé, la collecte de témoignages liés ensuite par l'écriture, comme dans un chœur. Elle a publié une demi-douzaine de grands livres. En France, certains ont rencontré beaucoup de lecteurs, suscité nombre d'adaptations. C'est le cas de La Supplication, entreprise après la catastrophe de Tchernobyl, et des cercueils de zinc, on se souvient, les cercueils des soldats soviétiques engagés dans la dernière aventure militaire de l'URSS, brillaient au soleil sur les tarmacs des aéroports d'Afghanistan avant d'être ramenés au pays. Il suffit de lire une ligne de chacun de ses ouvrages pour comprendre que Svetlana Alexievitch n'est pas l'historienne froide qu'elle prétend parfois être. Elle dit aussi ne pas vouloir tenir un flambeau allumé, mais elle délivre des messages, d'ailleurs parfois apparemment contradictoires. D'un côté, elle observe que le moule soviétique est cassé, de l'autre que l'homo soviéticus survit, comme si en 20 ans l'Union soviétique avait totalement changé, et en 100 ans la Russie, pas du tout.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Galia Kerman, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, historienne de la Russie, éminente traductrice du russe. On va commencer en parlant du livre le plus connu en France. Vous dites que c'est un long seller. C'est donc la Supplication, un long travail après la catastrophe de Tchernobyl de 1986. C'est le premier livre que vous avez traduit.
Oui, absolument. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. J'ai même été en quelque sorte promotrice de ce livre que plusieurs éditeurs ont refusé en disant que c'était pas intéressant ou trop horrible ou trop gna-gna, etc. Donc,
Et vous avez trouvé la maison Lattès, Jean-Claude Lattès.
Oui, grâce d'ailleurs à la femme de Monsieur Colosimo, qui est russophone et que j'ai convaincue de lire ce livre et de le recommander à son mari.
On dira aussi que vous avez entrepris la traduction d'un autre livre, mais laissant une certaine incertitude dans ce début d'émission sur les conditions de cette traduction. Alors ça fonctionne souvent de la même manière, les livres de Svetlana Alexievitch. Il y a une collecte, il y a des témoins, ces témoins vont se répondre comme dans un chœur, et souvent apporter un détail qui fait image. Alors voici extrait de ce livre dans votre traduction, dans une adaptation de France Culture, un moment de la Supplication.
Le réacteur semblait éclairé de l'intérieur. Une lueur framboise, flamboyante. C'était très beau. Le soir, tout le monde était à son balcon. Ceux qui n'en avaient pas sont passés chez les voisins. On prenait les enfants dans ses bras pour leur dire « Regarde, cela te fera des souvenirs. » Et c'était des employés de la centrale, des ingénieurs, des ouvriers, des professeurs de physique. Ils se tenaient là, dans la poussière noire. Ils parlaient, ils respiraient, ils admiraient. Nous ignorions que la mort pouvait être aussi belle.
On nous évacua le troisième jour. Il y a eu une annonce à la radio interdit d'emporter des affaires personnelles. Entendu, je ne prendrai rien. À l'exception d'une seule chose. La porte de mon appartement. Il m'était impossible de la laisser. Quitte à clouer des planches pour condamner l'entrée. Notre porte. Notre talisman. Une relique de famille. Mon père a été allongé sur cette porte. J'ignore l'usage ailleurs, mais chez nous, ma mère disait qu'il fallait coucher les défunts sur la porte de la maison en attendant de les mettre en bière. J'ai passé la nuit près de mon père allongé sur cette porte. Et sur cette même porte, il y a des marques de bas en haut. Ma taille à différents moments de mon existence. Première année d'école. Seconde, septième, avant le service militaire. Et à côté, la croissance de mon fils et celle de ma fille. Toute notre vie était inscrite sur la porte.
Une voix, 10 voix, 100 voix. Un détail, 10 détails, beaucoup de détails. Comme une mélodie, parce qu'elle a l'oreille musicale.
Oui, je pense qu'il faut même parler plutôt non pas de polyphonie, mais de symphonie par rapport à ces livres, parce que justement, la polyphonie, c'est tout simplement une multitude de voix ou de sons ou d'instruments, alors que là, il y a quand même un ensemble cohérent qui est créé, où diverses voix créent chacun, chacune, sa mélodie qui se regroupe par thème, c'est-à-dire vraiment comme dans une symphonie.
Un vieux chauffeur de taxi lui raconte « Des pigeons se jettent sans cesse sur mon pare-brise. Et pourtant, dans les journaux, ils écrivent « La situation est sous contrôle ». C'est la suite d'une citation de son discours du Nobel à Stockholm cette semaine. Un vieil apiculteur me raconte « Un matin, je suis sorti dans mon jardin, il y avait quelque chose qui me manquait, un bruit familier, il n'y avait plus une seule abeille. Rien ne devait passer, parce qu'on était encore dans un état totalitaire de ces récits. »
Oui, c'est vrai, la situation a perduré jusqu'en 89. Quand tout d'un coup, grâce à une libéralisation de plus en plus grande du Soviet suprême notamment, on a déclassifié l'accès aux informations concernant le Tchernobyl, et c'est là que le peuple soviétique, encore complètement soviétique, a appris des choses qui, pendant 3 ans, ont été cachées.
Parce que la seule chose qu'on peut raconter dans la grande tradition de l'homo sovieticus, c'est l'acte d'héroïsme. Alors, on pouvait parler des liquidateurs et de la manière dont ils se portaient devant le danger. On pouvait plus difficilement raconter ce qu'il advenait d'eux après.
C'est vrai, mais il y avait encore un autre objectif non moins important. L'idée était quand même de reconstruire la centrale pour montrer que l'Homo sovieticus est plus fort que l'atome, comme on disait à l'époque. Et donc, c'était non seulement un acte héroïque de nettoyage du territoire, etc., etc. Ça ne fait pas rêver. Mais l'idée que l'on puisse reconstruire et faire fonctionner de nouveau la centrale, c'était un acte héroïque dans la verve de tous les exploits soviétiques, c'est-à-dire faire des gros barrages, faire des canaux, lancer des fusées qui vont dans le cosmos, etc. Ça, c'était le dernier acte héroïque et totalement inutile de l'Union soviétique.
L'Homo sovieticus, il est forgé pour le sacrifice et pour l'exploit.
Toujours.
Alors,
à ce jour.
Elle a ça, c'est une ligne continue dans sa musique en tête quand elle écrit Svetlana Alexievitch. On va passer, si vous le voulez bien, à un autre livre qui a eu beaucoup d'écho, lui aussi, en France, et a provoqué en Union soviétique finissante un véritable ébranlement. Nous sommes après l'invasion de l'Afghanistan. Vous pouvez rappeler, parce que on l'oublie aujourd'hui, que ça a été la dernière intervention militaire de Moscou, enfin je ne parle pas de ce qui se passe maintenant, sous Poutine, hors des frontières.
Absolument, ça a été la décision prise en 79 sur la demande soi-disant du gouvernement afghan, tout comme aujourd'hui ça se fait sur la demande de Bachar el-Assad. Et donc le Politburo d'ailleurs, pas du tout à l'unanimité, mais après de longues discussions, parce qu'il y avait des gens qui ont été contre cette invasion de l'Afghanistan, mais finalement Brejnev et sa ligne ont gagné, et ça a été bien sûr une catastrophe militaire qui a duré plusieurs années, jusqu'à ce que Mikhail Gorbatchev n'annonce le retrait de l'Afghanistan.
Sur les aéroports d'Afghanistan étaient entassés, et ils brillaient au soleil, des cercueils de zinc qu'on enfermait ensuite dans des avions qu'on appelait les tulipes noires.
Oui, et les cercueils eux-mêmes, on parlait pas tellement de cercueils de zinc, ça s'appelait chargement de sang. Dieu sait pourquoi de sang, mais c'est comme ça que dans le jargon militaire, on appelait ces cercueils qui contenaient les dépouilles des soldats péris en Afghanistan.
Le travail de collecte de témoignages de Svetlana Alexievitch porte notamment et surtout sur les femmes qui sont restés au pays, sur les mères des soldats.
Oui, ça a été une ligne qui a été très visible dans son premier livre, surtout parce que c'est les femmes dans la Seconde Guerre mondiale, et ça s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme ». Et en effet, elle a plus d'empathie, je pense qu'elle entre plus facilement en empathie avec les femmes. Or, pour collecter un témoignage et surtout en quelque sorte, excusez-moi l'expression, de tirer les vers du nez de votre témoin, il faut être en empathie avec lui.
Alors ici, on n'est pas du côté des mères, mais on est dans un univers féminin. Ce témoignage est recueilli dans un salon de coiffure.
Un officier, permission, revient au pays. Il veut se faire couper les cheveux. La coiffeuse l'installe dans un fauteuil. Comment ça se passe en Afghanistan ? Ça se normalise. Quelques minutes après. Comment ça se passe en Afghanistan ? Ça se normalise. Encore quelques temps après. Comment ça se passe en Afghanistan ? Ça se normalise. Il paye, il s'en va. Les autres coiffeurs demandent à la fille. Qu'est-ce qui t'a pris de le martyriser ? À chaque fois que je lui parlais de l'Afghanistan, ses cheveux se dressaient sur sa tête, c'était plus facile à couper.
Afghanistan был той первой трещиной, которая, когда мы видели, что расползается по швам,
la première fissure dans ce bâtiment monolithique du grand pays de l'utopie.
А массовое сознание, оно живет на уровне мифов.
La conscience de masse a continué de vivre au niveau de mythes.
И использовать этого человека, манипулировать и военным, и генералам было
et
очень
donc,
легко.
Il était très facile d'utiliser et de manipuler cette conscience.
И они говорили и привозили на этот суд, который организовали
c'est
против книги.
Ils ont organisé un procès contre mon livre, les autorités. On a amené des mères de soldats en car.
Матери приезжали, привозили этих матерей с портретами своих сыновей.
Elles venaient avec des portraits de leurs enfants tués en Афганистан.
Посмотрите, эти какие красивые наши ребята, et какие они герои.
Disait,
она сделала из них убийц.
Regardez nos gars, comment ils étaient beaux, comment ils étaient héroïques, et elle, elle a fait d'eux des assassins.
Les admirateurs de Jacques Michel, metteur en scène, auront peut-être reconnu une adaptation signée par lui des Cercueils de Zinc, et les auditeurs de La Marge de l'Histoire sont en train de se dire, mais c'est Galia Ackermann, l'invitée de Lebrun, qui est aussi la traductrice de
Svetlana
Alexievitch.
Oui, absolument.
Vous l'accompagniez pendant plusieurs années, pendant ses voyages en France.
Oui, c'est vrai, parce que, si vous voulez, j'ai traduit La Supplication, qui a été, comme vous l'avez remarqué, un long-seller. C'est un livre qui se vend à ce jour. Et donc, pendant des années, on l'a invité à toutes sortes de colloques, de festivals, de toutes sortes de manifestations, à l'occasion aussi de spectacles qui ont été créés après la supplication. Et donc, en effet, en tant que traductrice de ce livre, je l'ai accompagnée pendant quelques années.
Elle dit, et on l'a entendu traduite par vos soins, que les Cercueils de Zinc ont provoqué un ébranlement, un procès. Y a-t-il eu pour elle des difficultés grandissantes dans son pays, la Biélorussie, dirigée par Loukachenko, et dont elle explique que c'est comme une petite terre entre deux pressoirs, l'Ukraine et la Russie?
Je ne dirais pas qu'elle a eu réellement des difficultés. Je pense que si elle a choisi de vivre pendant des années à l'étranger, c'était surtout parce qu'elle a eu des bourses d'écriture. Dans son pays, on n'a pas publié ses livres, mais comme le pays est entièrement russophone, il est très facile de s'en procurer, aussi bien sur Internet que dans des librairies, parce que les livres ont été publiés en Russie. Mais elle ne se plaisait pas en Biélorussie, ça c'est une autre affaire. Maintenant, pour ce qui est du cercueil des Cercueils de Zinc, je dirais quand même que je n'ai pas suivi, c'est-à-dire concrètement, ce procès qui, je vous rappelle quand même, s'est tenu déjà dans la Biélorussie post-soviétique. Ce n'était pas à l'époque soviétique. Et donc, de toute façon, rien ne l'a menacé physiquement. Mais il faudrait voir pour pouvoir juger les textes, c'est-à-dire les transcriptions des témoignages et ce qu'elle a fait pour pouvoir juger qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui a été monté.
Si vous le voulez, on va entrer dans le laboratoire de Svetlana Alexievitch dans un instant. Évoquons le temps heureux, non pas des laboratoires, mais des cuisines. Je dis le temps heureux parce que elle explique qu'avant la fin de l'Union soviétique, à Minsk et ailleurs, on se réunissait dans les cuisines, on discutait de la situation, et puis on parlait des grands chanteurs de l'époque dont on connaissait les paroles par cœur. Voici Vysotsky, dont elle cite très souvent dans ses livres « la chasse au loup, au gros prédateur gris, au louveteau, les traqueurs crient et les chiens aboient au vomissement, du sang sur la neige, la chasse au loup, la chasse au loup. »
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не трогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Galia Ackermann nous parle de Svetlana Alexeïevitch, le prix Nobel de littérature. Elle vient de recevoir son prix à Stockholm. Je vous vois frémir d'ailleurs en écoutant cette chanson.
Oui, c'est vrai. C'est un texte très fort. Vous ne l'avez pas traduit, mais en fait,
Vysotsky... J'ai dû traduire un mauvais morceau, le refrain. Ouais.
Vysotsky identifie toute cette jeunesse contestataire aux loups qui sont chassés par des chasseurs impitoyables et donc qui n'ont aucune chance de survie.
On parlait de cela dans les cuisines. Les cuisines, c'était les lieux de réunion libres.
Oui, mais vous savez pourquoi les cuisines? On pense parfois que c'est les Russes sont un peu plus bizarres. Pourquoi est-ce qu'ils se réunissent dans les cuisines? Mais c'est tout simplement dans les appartements soviétiques, il n'y avait pas de salon. Et toutes les pièces étaient des chambres à coucher. Donc le seul lieu de réunion possible, c'était la cuisine.
Oui, mais vous vouliez nous parler maintenant du laboratoire de Svetlana Alexeïevitch. Vous apercevez, en entamant la traduction d'un autre livre d'elle, que la méthode qu'elle affiche n'est pas nécessairement celle qu'elle suit précisément. Je peux vous faire écouter une interview d'elle sur ce sujet, traduite par vos soins, et ensuite vous nous raconterez vos interrogations.
Je recherche des gens bouleversés, des gens qui relatent non pas des faits, mais qui sont capables de se souvenir de leurs sentiments. Et c'était des gens dont la liberté a été très sérieusement entravée. Premièrement, j'écris chacun de mes livres pendant 4 à 6 ans. Je rencontre des centaines de personnes. Chacun de mes livres est basé au minimum sur 200 à 300 témoignages, pour certains livres plus que ça. Je travaille avec un dictaphone. C'est très important pour moi, non seulement pour marquer le récit en soi, mais aussi pour ensuite réécouter l'intonation, le souffle, pour reconstituer après, pas seulement le récit, mais aussi la personnalité.
Enfin, à moins que le cœur des voix ne soit aussi un roman des voix. Expliquez-nous vos questions.
Bah écoutez, c'est vrai que je ne me suis pas posé du tout de questions en traduisant la supplication. Et les questions, j'ai commencé à à me les poser en traduisant un autre livre d'elle, qui est le premier livre « La guerre n'a pas un visage de femme », qui raconte donc l'expérience des femmes qui ont été soit des soldates, soit des infirmières, soit des partisanes, soit tout simplement qui ont vécu dans cette Biélorussie occupée par les nazis. Et je n'ai pas traduit directement du russe, de l'édition russe qui a été publiée en 85, mais Svetlana m'a donné un manuscrit qui d'ailleurs ensuite a aussi changé plusieurs fois en cours de route, qu'elle a transformé pour l'édition française. Et par curiosité, j'ai commencé à comparer ce qui a été publié en 85 et ce qu'elle m'a donné en 2003, peut-être de, début de 2004. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réécritures. La réécriture portait non seulement sur, par exemple, des coupes ou des expressions mieux réussies, mais il y avait des ajouts de phrases, souvent qui devaient renforcer l'effet sur sur le lecteur. Il y avait aussi des fusions de personnages secondaires ou élimination de personnages secondaires en faveur de personnages plus importants. Donc, on attribuait les paroles de l'une à une autre femme. Et puis il y avait encore quelque chose, donc je me suis dit bon bah il faut quand même peut-être ne pas considérer ça comme des témoignages dans le sens classique du mot, mais comme une littérature inspirée de témoignages où finalement les témoignages apparaissent comme des briques ou comme des motifs, comme vous voulez. Et ensuite, c'est le travail de montage qui en construit une œuvre complète. Et donc, ce qui compte, apparemment, ce n'est pas la voix individuelle, mais l'ensemble, tout comme dans un orchestre, c'est pas très important les notes jouées par tel ou tel instrument. Ce qui compte, c'est l'effet global.
Dans un laboratoire, il y a des réactions chimiques qui provoquent des métabolisations. On va employer des mots savants.
Voilà. Mais donc, ça pose une question, ça ne pose absolument pas question pour ce qui concerne sa maîtrise littéraire. Et d'ailleurs, je dois vous dire que elle a, à un moment donné, par exemple pour la supplication, j'ai parlé une fois dans un colloque aussi en analysant un peu La guerre n'a pas un visage de femme, mais après cette intervention, la nouvelle édition de La Supplication portait le sous-titre « Roman », qui voilà. Ensuite, encore une fois, a disparu. Donc, si vous voulez, ce que, non pas que je le reproche, mais je pense qu'elle devrait être, Svetlana, plus claire là-dessus, il ne faut pas que les gens prennent ceci comme des témoignages de personnes concrètes, complètement fiable, ce n'est pas exactement ce qui a été dit, ce qui apparaît dans le livre.
Avant le Nobel de littérature, elle publie un chef-d'œuvre de littérature, La fin de l'homme rouge, c'est traduit par Sophie Bénèche aux éditions Actes Sud. Elle a l'oreille musicale, vibre encore en elle l'écho du générique de Radio Moscou, l'écho de l'exploit de Gagarine, de tout ce qui faisait la singularité de l'homme rouge. This is Radio Moscow World Service.
Говорит Москва, передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Я отвлекаюсь и возвращаюсь домой. Я вновь прием. L'homme rouge est toujours présent. Finalement, l'homme rouge, c'est l'homme tel qu'il a été créé par l'Union soviétique. Il n'a pas changé. C'est des gens qui vivent dans une sorte de laboratoire où nous sommes fixés pour objectif peut-être de créer une catégorie d'hommes nouvelle. Et Poutine, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il reconstruit à l'identique cet homme soviétique tel qu'il était du temps de l'Union soviétique, parce que finalement, il a décidé qu'il n'y avait pas d'autre voie possible.
Quand Svetlana Alexievitch vient à France Inter, chez Augustin Trapenard, ce n'est plus la même traductrice, ce n'est plus Galia Ackermann. Alors vous avez le poil qui se hérisse quand vous entendez le temps du muguet, le générique de l'homme rouge, mais beaucoup des témoins de ce livre que je citais ont un certain regret de cette époque. L'argent ne comptait pas, on pensait d'abord aux autres, l'homme était fait pour se dévouer.
Vous savez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette évaluation. Je pense que l'homme soviétique, en effet, n'avait pas le poids de la propriété, tout simplement parce que la propriété pour les appartements, pour des entreprises, etc., n'existait pas. On ne pouvait être propriétaire de ses vêtements, de ses meubles, de ses bijoux, à tout casser, de sa fourrure, peut-être, de sa dacha. C'est pas grand chose, mais en même temps, quand vous n'avez pas de responsabilité, quand il faut pas gérer quoi que ce soit, tout est décidé pour vous, votre voie est tracée, c'est beaucoup plus facile. Donc les gens aujourd'hui, en effet, ont des regrets, mais il y a encore une autre composante. Svetlana fait davantage l'accent sur ce dévouement, sur cette aspiration même à mourir pour la patrie, etc. Moi, je ne suis pas sûre que l'homme post-soviétique soit aussi prêt à mourir que l'homme soviétique. On essaie de cultiver ce patriotisme, on voit tous ces défilés, la place rouge, etc. Mais je pense qu'il y a une nostalgie, il y a une nostalgie sociale, il y a une nostalgie de la grandeur, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le même homme soviétique, disons de l'époque stalinienne, peut-être, à tout casser, comme sous Brejnev, assez sceptique, assez fatigué, qui veut croire, qui souffre parce que l'économie actuellement ne marche pas bien. Vous savez, le titre russe de ce livre, c'est « Tant second hand ». Second hand, secondaire, usagé, ne peut jamais être comme l'original.
Merci à vous, Galia Ackermann. Je renvoie sur notre site au discours du Nobel de Svetlana Alexievitch et à ses livres parus chez différents éditeurs en France. Alors, vous faites de l'histoire, Mathieu Vidard.
Ben oui, vous me signerez une dérogation, j'en suis
d'accord.
S'il vous plaît.
Oui,
vous me pardonnez, j'espère.
Tout à fait, oui, je signe tout ce que vous voulez. Sciences et savoirs.
Voilà, avec nos invités pour 5 siècles d'histoire des sciences.
Ah oui, 5 siècles.
Carrément.
Il est vrai que vous avez une heure de la Renaissance aux Lumières. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, avec à la technique Mathias Alléon, et la réalisation Jacques Sigal.